Bonjour à tous, on est sur Fréquence Mistral, il est 15h, c'est l'émission des lecteurs sous les toits.
Bonjour Evan.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes trois pour vous présenter cette émission. Nous avons Olivia, Nathanaël et Sylvie. Alors, le comité de lecture le dernier comité de lecture s'est déroulé le mardi 18 octobre et nous étions une quarantaine de participants autour de la table pour dresser le bilan des dernières correspondances de Manosque et en particulier des apéros littéraires puisque c'est cette rencontre qu'anime les membres du comité de lecture. Tout le monde s'est félicité de la qualité des écrivains invités et de l'implication des membres du comité.
Nous avons commencé par nous présenter car de nous, vos lecteurs, nous avaient rejoints pour la première fois, attirés par nos lectures et nos échanges avec les auteurs sur la place d'Herbès lors de ces apéros littéraires durant les correspondances.
Alors nous avons annoncé les futurs projets du comité et de la médiathèque de Manosque, ce que nous allons refaire aujourd'hui avec vous pour vous inviter à toutes ces animations.
Alors le mardi 15 novembre à 18h à la médiathèque, le comité accueillera l'auteur Miguel Bonnefoy pour son nouveau livre « Jungle ». Nous l'avions déjà reçu l'an dernier aux apéros littéraires pour le voyage d'Octavio.
Alors « Jungle », en fait, ce n'est pas un roman, c'est une aventure, c'est une exploration dans la jungle. C'est un très bel ouvrage. Mardi 22 novembre à 18h30, au centre Jean Giono, nous vous présenterons les livres présélectionnés par les bibliothécaires du réseau de la DLVA pour le prix des médiathèques Nouvelle Formule intitulé « Une terre, un ailleurs ».
Les membres du comité de lecture seront chargés de choisir 4 livres parmi les 11 proposés pour les soumettre ensuite au vote des abonnés des médiathèques.
Les comités de lecture de Gréou et Manosque seront présents, ainsi que les bibliothécaires et les lecteurs des petites et grandes structures de la DLVA.
C'est Iliana Irstova, bibliothécaire à Manosque et coordonnatrice de ce projet qui mènera la discussion. N'hésitez pas à venir, donc à 18h30 au centre Jean Giono.
Samedi 26 décembre à 11h à la médiathèque de Digne se déroulera un spectacle du baroque au XXe siècle, lecture et musique, et ça sera joué par l'ensemble de clarinettes du conservatoire et par le comité de lecture de Manosque dont nous faisons partie.
Nous avions déjà joué ce spectacle au mois de juin à l'auditorium du conservatoire de Manosque et franchement, sans nous vanter, nous avions eu notre petit succès.
Alors là, je vous rappelle quand même la date, ça vaut le coup. Samedi 26 novembre à 11h à la médiathèque de Digne. Le mardi 20 décembre à 18h à la médiathèque de Manosque, le comité recevra Sylvain Patieux pour l'ensemble de son œuvre romanesque et documentaire.
Nous avons tous apprécié la prestation de cet auteur pour son livre « Et que celui qui a soif vienne » que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et c'est avec plaisir que nous achèverons d'ailleurs l'année en sa compagnie.
Autour de quelques gourmandises.
Comme on le fait toujours pour le dernier comité qui se passe en décembre. Mardi 17 janvier 2017 à 18h à la médiathèque, nous allons rencontrer Julien Delmer.
Alors Julien Delmer, c'est l'auteur qui sera en résidence à Manosque pour toute l'année et qui a écrit 2 romans, Georgia en 2013
et Frères des Astres en 2016.
Donc ça sera le mardi 17 janvier à 18h à la médiathèque de Manosque. Les lundis 20 et 27 mars, mais ça on aura le temps de vous en reparler mieux, mais bon, on vous l'annonce quand même, à la médiathèque, le même Julien Delmer animera des ateliers de lecture à haute voix.
Qui seront ouverts aux lecteurs, donc à tous les intéressés, aux bibliothécaires de la DLVA et aux élèves de la DREP, qui sont des élèves qui viennent nous rejoindre lors des comités de lecture et surtout des apéros littéraires. Et cette année encore, ils nous ont rejoints pour faire de très belles lectures. Nous allons vous présenter donc aujourd'hui les 6 romans et les 6 auteurs que nous avons reçus lors des apéritifs littéraires lors de ces correspondances. Nous allons commencer par Sylvain Patieux, pour son roman Et que celui qui a soif vienne, un roman de pirate. Alors c'était la première fois que nous avions le plaisir de le rencontrer et c'est un écrivain qui a un parcours atypique.
Il est historien, il enseigne à l'université, il est l'auteur de plusieurs livres, des essais sociologiques et historiques, mais aussi des romans.
Aujourd'hui, avec ce roman, nous allons voyager et suivre le destin croisé des équipages de trois bateaux. Un bateau négrier, un bateau de pirates, un navire marchand. Et à l'occasion d'une révolte, de mutinerie, de plusieurs abordages, les pirates vont devenir maîtres de tous les bateaux, libérer les esclaves et laisser le choix à ceux qui le désirent de les rejoindre. Nous sommes donc à ce moment précis où les capitaines vont dicter leur loi, enfin pas dicter leur loi, justement, faire en sorte que les personnes qui le souhaitent les suivent. Enfin, ils s'installent tous, pirates et mutins, rescapés et sauveurs, destins d'esclaves ou de marins, sur le pont, pour la plupart debout, les plus faibles assis néanmoins. Les deux capitaines et César montent sur des tonneaux et Calico prend la parole en premier.
Je suis votre hôte, capitaine flibustier et fier de l'être, par la volonté de mes marins qui m'ont élu. Qu'on balance par-dessus bord mon corps de misérable si je vous trahis un jour. Dieu m'en préserve. Bienvenue sur notre pont, mutins, anciens esclaves, marrons ou révoltés. Voici les règles. Ici, chacun est égal et chacun travaille. Chacun reçoit sa part et nous décidons tous. Jusqu'ici, nous avons agi seuls, sans besoin de personne, trouvant subsistance selon nos prises, trouvant richesse même, aussitôt dépensée, car nous le savons tous, un nœud coulant nous chatouille la gorge, un sabre nous flatte le ventre. Notre vie sera courte, autant qu'elle soit bonne. Aujourd'hui, sur le port, le capitaine K, ici présente, et son équipage de mutins nous ont sorti de vilaines affaires. Nous avons eu peu à attendre pour rendre ce bienfait, sauvant les malheureux que voilà du naufrage de leur navire. Ils sont anciens esclaves, asservis par des malfaisants.
Un marin alors se lève, fort véhément, n'ayant que faire de ses âmes perdues, préférant les armes, les munitions et la nourriture, bien plus utiles à la marche du bateau. Il conclut
« Vendons-les, tirons-en à bon prix, ainsi nous seront-ils utiles ?»
Calico va pour répondre, mais le pasteur Walkins et Ferracciolo montent sur les tonneaux. Tous deux portent bandeaux blancs et sanglants sur l'oreille du prêtre, noir et bien noué sur l'œil du pasteur. Ce dernier prend la parole en premier à grand courroux.
Tout homme né libre, nous fonctionnons selon ce principe, a droit à l'air pour respirer, à la nourriture pour manger. Dieu ne peut vouloir pour ses créatures une vie de sujétion et de peine. Nous sommes égaux ici, pourrions-nous vouloir en asservir d'autres? Faire commerce de ses semblables, c'est les traiter tels des bêtes. C'est contrevenir à la justice divine, c'est usurper le pouvoir de décider la liberté d'autrui.
Alors, c'est un roman qui nous a vraiment plu à tous, à tous les membres du comité. Un roman donc, comme on l'a dit, de piraterie et qui nous offre en fait des combats, des abordages, des canons, du rhum. Alors souffle un vent de liberté, d'amour et surtout, comme on l'a entendu, de fraternité entre esclaves, marins, mutins. Olivia.
Et... on ressent vraiment un écho profond par rapport à notre société d'aujourd'hui et ce mouvement de libération, on jubile et on en rêve aujourd'hui.
Voilà, donc c'était, ouais, c'est vrai, et c'était un livre qui nous a vraiment, vraiment beaucoup plu. Je vous rappelle le titre, « Et que celui qui a soif vienne », paru dans la collection La Brune au Rouergue en 2016. Présenter le livre de Sylvain Prudhomme qui s'appelle « Légende », paru chez Gallimard en 2016, que nous avons reçu en même temps que Sylvain Pathieu le jeudi des correspondances. Donc Sylvain Prudhomme, on le connaît bien à Manosque, puisqu'il était en résidence il y a 2 ans, et que nous l'avions reçu ici pendant les apéros littéraires 2 fois. La première pour Là avait dit Bailly en 2012, l'histoire d'un petit-fils qui part en Algérie sur les traces du passé colonial de son grand-père, et pour Les Grands en 2014, l'évocation d'un groupe de musique, les Super Mama Jambo, en Guinée-Bissau, sur fond de coup d'État.
Et aujourd'hui, nous allons beaucoup moins loin, dans une région qu'il connaît très bien, puisqu'en fait, il y vit, dans la Croix et en Arles. Alors, transparaît dans ce livre l'amour de cette région, amour, en fait, qu'il partage évidemment avec ses 2 héros, Matt et Nell. Alors, Matt, à ses heures perdues, tourne des films documentaires et a pour projet de réaliser un film sur une boîte de nuit mythique de la Croix et surtout en fait de la Camargue qui se nommait la Churrascaïa. À cette occasion, il croisera le destin et l'histoire de 2 frères ennemis, Fabien et Christian, qui en fait sont ni plus ni moins que les cousins de Nell, donc son meilleur ami.
Alors, nous avons choisi de vous faire partager un passage de ce livre et Olivia, qui va vous lire ce petit passage, a donc choisi La première fois de Nell. Je laisse Olivia à sa lecture.
Nell avait toujours pensé que sa première fois serait avec une fille qui, comme lui, ne l'aurait jamais fait. Finalement, il avait couché avec une fille qui avait connu 30 garçons peut-être avant lui. Cette nuit-là, bien sûr, la fille était restée dormir chez lui. Bien sûr, il n'était pas ressorti avant le matin, n'avait pas remis le nez dehors de la soirée, était resté 15 heures d'affilée sans franchir le palier de la petite chambre de Bonne. Au matin, Nell l'avait raccompagné au bas de l'immeuble, était revenu dans la chambre, avait regardé le fleuve par la fenêtre, le scintillement de l'eau en contrebas. Il s'était senti heureux et calme. Une joie puissante, mais rentrée, contenue. Comme si son secret était de toute façon impossible à partager, comme si personne ne pouvait en imaginer l'intensité. Il avait très sincèrement pensé que plus rien ne lui résisterait désormais. Il avait voulu crier par la fenêtre, téléphoner à tous ses amis, annoncer la nouvelle à chaque passant. Il avait pensé « calme-toi ». Il lui avait semblé que le nouvel homme qu'il était savait se maîtriser. Que c'était précisément l'une des caractéristiques qui faisait sa nouveauté, savoir garder ses nerfs. Que faisait un homme qui savait garder ses nerfs? Il était évident qu'il ne s'emballait pas. Il rangeait au contraire tranquillement les tasses de café abandonnées près du lit des fées. Il allumait la radio tout à fait banalement, comme un homme qui ne vient pas du tout de faire quelque chose d'extraordinaire, un homme pour qui ce genre de moment est au contraire parfaitement habituel. Il avait allumé la radio avec la plus grande désinvolture, il avait pressé le bouton du poste et c'était alors qu'il avait appris la nouvelle. À cet instant précis qu'il avait entendu ces voix dont la joie ressemblait à la sienne, très exactement la joie qu'il se retenait de laisser exploser. Les voix parlaient allemand, il pouvait entendre de toutes parts leurs éclats dans le poste, celles des hommes et des femmes interviewées, mais aussi à l'arrière-plan des milliers d'autres. Le reporter parlait de foules massées sur les places de la ville, de ruées aux anciens checkpoints, d'embrassades entre Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest. Et avec stupéfaction alors, Nell avait réalisé ce qui arrivait. 9 novembre 1989, cette journée restera à jamais dans les mémoires, avait dit le journaliste, et tout s'était éclairé. Le mur venait de tomber. Justement, cette nuit-là, le mur était tombé, et aussitôt, Nell avait pensé, c'est moi. Ouvrant la fenêtre, il avait voulu crier à la cantonade, c'est moi. Prenant compulsivement son téléphone, il avait voulu appeler tous ses amis, toutes les radios, pour leur annoncer, le mur tombé, c'est moi. La foule en liesse, le violoncelle de Rostropovitch, l'Allemagne réunifiée, mais c'est moi.
Voilà, donc vous avez pu avoir un petit aperçu de ce livre que nous vous conseillons, où vous trouverez plein de poésie, d'amitié et d'histoire familiale, et où vous vous replongerez dans les années 80 avec des jeunes épris de liberté, mais où rôde le spectre du sida.
Le vendredi, nous avions reçu deux auteurs, Elisa Chua du Sapin pour Un hiver à Sokcho et Emmanuel Venet pour Tourner
Marcher droit, Tourner en rond, paru chez Verdier.
Voilà, donc Elisa Chua du Sapin est franco-coréenne, de père français et de mère sud-coréenne, et elle a grandi entre les deux pays. Elle est également comédienne, elle écrit des spectacles. Un hiver à Sokcho est son premier roman et il a déjà été récompensé par le prix Walser qui est attribué justement à une première œuvre en prose.
Dans ce court roman intimiste, elle met en scène une jeune femme coréenne qui voit arriver dans la pension de famille où elle travaille un Français auteur de bande dessinée. Elle va lui servir de guide en plein hiver dans cette zone portuaire glaciale près de la frontière de la Corée du Nord. Nous allons vous lire le début de ce roman.
Il est arrivé perdu dans un manteau de laine, sa valise à mes pieds, il a retiré son bonnet.
Visage occidental,
yeux sombres,
cheveux peignés sur le côté.
Son regard m'a traversé sans me voir.
L'air ennuyé, il a demandé en anglais s'il pouvait rester quelques jours, le temps de trouver autre chose.
Je lui ai donné un formulaire.
Il m'a tendu son passeport pour que je le remplisse moi-même.
Yann Kerran, 1968, de Granville.
Un Français.
Il avait l'air plus jeune sur la photo, le visage moins creux.
Je lui ai désigné mon crayon pour qu'il signe. Il a sorti une plume de son manteau.
Pendant que je l'enregistrais, il a retiré ses gants, les a posés sur le comptoir, a détaillé la poussière, la statuette de chat fixée au-dessus de l'ordinateur.
Pour la première fois, je ressentais le besoin de me justifier. Je n'étais pas responsable de la décrépitude de cet endroit.
J'y travaillais depuis un mois seulement. En retournant à la réception, j'ai fait un détour par le marché de poissons pour chercher les restes que ma mère me mettait de côté. J'ai traversé les allées jusqu'à l'étal 42 sans prêter attention au regard levé sur mon passage. 23 ans après que mon père avait séduit ma mère, puis était reparti sans laisser de traces, mon métissage français restait source de commérage. Ma mère, trop fardée comme toujours, m'a tendu un sac de bébé poulpe.
On n'a que ça en ce moment. Il te reste de la pâte de piment ?
Oui.
Je vais t'en donner.
Pas la peine, j'en ai encore.
Pourquoi tu n'utilises pas ?
Je l'utilise.
Dans un bruit de succion, elle a enfilé ses gants de caoutchouc jaune et m'a dévisagée, suspicieuse. J'avais maigri. Le vieux Park ne me laissait pas le temps de manger. Elle allait lui parler. J'ai protesté. Depuis que je travaillais, j'engloutissais des toasts chaque matin et des litres de café au lait. Je n'avais sûrement pas maigri. Le vieux Park avait mis du temps à s'habituer à ma cuisine, mais il me laissait maintenant des repas préparer les repas de la pension.
Les poulpes étaient minuscules. Je pouvais en prendre une dizaine par poignée. Je les ai triées, puis caramélisées avec des échalotes, de la sauce soja, du sucre et de la pâte de piment diluée dans de l'eau. J'ai réduit le gaz pour qu'il ne s'assèche pas. Une fois la sauce suffisamment condensée, j'ai ajouté du sésame et la pâte de riz gluant, le teok, en rondelles de la taille d'un pouce. Je me suis mise à couper des carottes. Dans leur reflet sur la lame, les rainures végétales se confondaient curieusement avec la chair de mes doigts.
Un courant d'air a refroidi la pièce. En me retournant, j'ai vu Kerran entrer. Il voulait un verre d'eau. Il a bu en observant mon plan de travail comme un tableau qu'on ne comprend pas. Déconcertée, déconcentrée, je me suis entaillée la paume. Le sang a moussé sur les carottes, durci en croûte brunâtre. Kerran a sorti un mouchoir de sa poche. Il s'est approché pour l'appliquer sur ma plaie. Il faut faire attention.
Je n'ai pas fait exprès.
Heureusement.
Il a souri, sa main pressée contre la mienne. Je me suis dégagée, mal à l'aise. Il a désigné la poêle.
C'est pour ce soir ?
Oui, à 19h, dans la salle à côté.
Il y a du sang.
Constat, dégoût, ironie, je n'ai pas compris la nature de son ton. Entre-temps, il était ressorti.
Il n'est pas venu manger.
Alors, c'est un roman où il y a finalement un choc des cultures. De l'attirance entre les deux héros, une sensualité qui émerge à chaque page. C'est un très joli texte, mais c'est tout en douceur, c'est tout en finesse. Est-ce que la rencontre va se faire ? On vous laisse le découvrir en lisant « Un hiver à Sokcho » d'Elisa Chua du Sapin.
Elisa Chua du Sapin, nous avions reçu Emmanuel Venet pour son livre « Marcher droit, tourner en rond » paru chez Verdier. Nous avions déjà reçu Emmanuel Venet en 2006 aux apéros littéraires pour un livre qui s'appelait « Ferdière, psychiatre d'Antonin Artaud ». Donc aujourd'hui, c'est pour un livre un petit peu différent. Emmanuel Venet est psychiatre et il nous livre aussi aujourd'hui un livre jubilatoire qui met en scène un homme victime du syndrome d'Asperger.
Le narrateur, donc, qui est atteint du syndrome d'Asperger, assiste à l'enterrement de sa grand-mère. L'occasion pour lui donc de raconter sa vie entourée de sa famille. Donc nous allons vous lire le début du livre où il assiste à l'enterrement et puis la description d'un des membres de sa famille, sa tante Lorraine.
Je ne comprendrai jamais pourquoi, lors des cérémonies de funérailles, on essaye de nous faire croire qu'il y a une vie après la mort et que le défunt n'avait de son vivant que des qualités.
On me rétorque souvent que je schématise les situations complexes à cause de mon syndrome d'Asperger, mais je me contente de raisonner logiquement, comme chacun devrait s'y astreindre.
Aujourd'hui, c'est ma grand-mère Marguerite qu'on voudrait faire passer pour une femme généreuse et gentille, révisionniste dont personne autour de moi ne semble s'indigner. Entendons-nous, je ne suis pas un fanatique de la vérité. J'admets volontiers qu'on maquille un cadavre pour le rendre présentable à la famille avant de visser le couvercle du cercueil. Et je peux comprendre qu'on n'entre pas dans la description détaillée de tous les travers du défunt. Mais de là à présenter ce dernier sous un jour franchement trompeur, il y a un fossé que je me refuse à franchir.
Je dois admettre qu'il m'est difficile de discuter avec ma tante Lorraine, qui ne s'intéresse qu'à des futilités et ment comme elle respire.
Ma tante Lorraine se croit drôle parce qu'elle appelle mon père Jean-Phil, répète « Noyeux Joël » chaque 25 décembre, prétend connaître la réponse à la célèbre question sur laquelle Freud soi-même aurait calé.
D'après elle, ce que veulent les femmes tient en trois mots
« manger sans grossir ».
Elle-même, se voulant mince contre toute évidence, elle boudine ses 80 kilos dans des vêtements de jeune fille qui lui scient la graisse et dont j'ai toujours peur que les coutures craquent.
Comme elle a lu dans les magazines que les couleurs sombres affinaient la silhouette, elle s'introduit dans des pantalons noirs trois tailles en dessous de la sienne et dans des chemisiers serrés qui épousent les bourrelets de son ventre.
En général, son décolleté fait pigeonner ses seins généreux, qu'elle appelle ses atouts majeurs, et qui bougent lorsqu'elle marche comme un flanc qu'elle secoue.
Elle clame à tous les vents qu'elle adore les animaux, ce qui crée entre elle et moi un inépuisable sujet de querelle.
Elle possède une chatte qui pèse 15 kilos et dont le ventre traîne par terre, tant elle la gave d'aliments riches en acides gras pour la plupart saturés.
Elle l'a baptisée Clitoris. Parce que, dit-elle, elle aime les caresses, ce qui fait rire mon père, mais offusquait ma grand-mère Marguerite.
Dénaturée par son régime et sa vie en appartement, cette pauvre bête ne sait même plus descendre des arbres, ni chasser les souris, de sorte que lorsque ma tante Lorraine l'amène au jardin de Sainte-Foy-Laval, elle la laisse enfermée dans une cage en osier où elle miaule sur un ton pathétique.
Souvent, j'ai essayé de démontrer à ma tante que l'amour des animaux commence par le respect de leur mode de vie et qu'elle s'honorerait de laisser Clitoris explorer le jardin.
Mais elle rappelle systématiquement qu'un jour, sa chatte a grimpé dans le cèdre de Monsieur Beccaria, le voisin de gauche, et qu'il a fallu appeler les pompiers avec la grande échelle pour lui porter secours car elle ne savait pas en descendre.
La seule fois où j'ai ouvert subrepticement la cage, Clitoris est partie en balade aux alentours et a disparu pendant 2 heures avant de revenir d'elle-même engloutir sa ration de pâté.
Mais pendant son escapade, j'ai cru que ma tante Lorraine allait me défoncer le crâne tellement la rage la mettait hors d'elle.
Je me souviens qu'elle m'a traité de barjot, d'arriéré, de mongolien et même de schizophrène, alors que le professeur Hurzweiss a bien précisé que mon cas n'avait aucun rapport avec ce genre de maladie chromosomique ou mentale.
Plus j'essayais de le lui expliquer, plus elle s'époumonait et me menaçait avec ce qui tombait sous la main, la pelle à tarte, le journal roulé en gourdin et même une bouteille.
Il a fallu que mon père s'interpose, promette à ma tante Lorraine de lui offrir un nouveau clitoris au cas où elle ne retrouverait pas le sien. Donc, c'est un roman jubilatoire que nous vous recommandons comme remède à la morosité. Donc, c'était Emmanuel Venet, Marcher droit, tourner en rond, chez Verdier.
Nous avons reçu le samedi Negar Djawadi pour Des Orientales et Gaël Faye pour Petit Pays. Ce sont pour tous les deux leurs premiers romans. Nous allons d'abord vous présenter Negar Djawadi pour son roman donc Des Orientales. Negar, comme son héroïne, est née en Iran dans une famille d'intellectuels opposants aux différents régimes, tant celui du Shah et puis celui de Roménie. Venue par les montagnes en France, en fait, elle a traversé, il y a dans le livre, et là c'est vraiment réel, c'est autobiographique, dans la neige, elle a traversé les montagnes du Kurdistan pour arriver en Turquie et enfin arriver en France, seulement à l'âge de 11 ans. Elle s'est intégrée dans ce pays, car aujourd'hui, elle travaille dans le cinéma, elle est scénariste de documentaires et même de séries, dont celle qui se nomme Tiger Lily. Des Orientales est donc son premier roman, et déjà un grand succès de cette rentrée littéraire.
Kimia est une jeune femme iranienne qui vit en France et qui nous raconte sa saga familiale et les événements qui l'ont amenée en France. Et grâce à elle, nous pénétrons dans l'histoire de l'Iran du XXe siècle.
Nous allons vous présenter, surtout, en fait, nos lectures vont tourner autour du père de Kimia, donc l'héroïne, qui l'a énormément marqué et c'est lui qui va, en fait... faire le destin de sa famille, et c'est à cause ou grâce à lui qu'elles vont devoir fuir leur pays.
Mon père, Darius Sadr, le maître de la page blanche, le téméraire, le révolutionnaire, disait de sa voix songeuse, visionnaire.
On écoute mieux avec les yeux qu'avec les oreilles. Les oreilles sont des puits creux, bons pour les bavardages. Si tu as quelque chose à dire, écris-le.
Pourtant, il y a des moments dans ma vie, des séquences plus ou moins importantes, où j'aurais fait n'importe quoi pour ne pas être celle que je suis.
J'ai changé de pays et de langue.
Je me suis inventé d'autres passés.
D'autres identités.
J'ai lutté, oh oui, j'ai lutté contre ce vent impérieux qui s'est levé il y a très longtemps dans une province reculée de la Perse, nommée Manzandaran.
Chargée de morts et de naissances.
De gènes récessifs et dominants.
De coups d'État et de révolutions. Et qui à chacune de mes tentatives pour lui échapper, m'a agrippée au col et remise à ma place. Pour que vous compreniez ce que je raconte, il faut que je rembobine et reparte du début. Elle va également nous parler de sa mère. Sa mère qui va avoir un choc qui va la changer à tout jamais, car le malheur est venu les poursuivre en France. Depuis sa maladie, je l'appelais maman. Je ne sais pas comment c'était arrivé, à quel moment précis j'avais cessé de l'appeler par son prénom. Je ne sais pas si mes sœurs l'avaient remarqué, si elles en avaient parlé entre elles, si tel était le cas, elles ne m'avaient fait aucune réflexion. Elles continuaient à l'appeler Sarah.
Sarah était grande, 1m72, mince, 57 kilos, un corps Sophia Loreni, comme on disait à Téhéran. Ses cheveux et ses yeux étaient noirs. Ses sourcils étaient épilés avec soin. Son nez présentait une légère bosse à sa base. Sa bouche, qui avait le même dessin que celle de sa mère, Emma Hassanian, laissait deviner, si vous étiez ethnomorphologue, qu'elle avait des origines arméniennes.
Sarah était drôle. Elle savait parler le Tchalemaïdouni, l'argot de Téhéran, et nous faisait hurler de rire.
Sarah était mère de famille, professeure d'histoire et de géographie, opposante politique, présidente du syndicat des copropriétaires, présidente du comité des parents d'élèves, rédactrice en chef du journal Jambesh, mouvement, fondé avec son mari. Levée à 5h30, couchée entre minuit et demi et 1h du matin.
Sarah était débordante d'amour et d'anxiété pour l'humanité entière. Dès l'aube, avant même de poser un pied sur le sol, elle cherchait quoi cuisiner, acheter, préparer pour faire plaisir à la famille et aux amis. Quand elle nous réveillait, à 6h45 tapante, avec du Mozart, le déjeuner était déjà prêt, voire le dîner, les toilettes et la salle de bain lavées, les plantes arrosées et le troupeau de chats vagabonds agglutinés derrière la fenêtre de la cuisine nourris. Nous la surnommions
« Mon général »
ou
« Caporal Sadr »
ou bien
« Associé de presse »
à cause de son époustouflante mémoire.
Alors on va revenir au père de Sarah. pas de Sarah, de l'héroïne.
De Kimia, donc. Seuls les événements politiques et les interrogations philosophiques animées Darius Sade lui faisaient relever la tête de son journal qui fermait partiellement sans jamais l'abaisser.
Nous vivions à côté de lui. Grandissions, mangions, réussissions des examens, ouvrions la porte d'entrée, tombions malades, obtenions des diplômes, fermions la porte d'entrée sans qu'il s'en aperçoive.
Nos anniversaires ne le concernaient pas, nos chagrins ne le concernaient pas.
Il avait la tendresse brutale, nous tirait la joue, nous grattait le dos avec énergie, puis d'un coup se désintéressait de nous pour attraper un livre.
Vers l'âge de 6 ans, alors que je l'entendais parler du matérialisme historique, sujet de l'essai sur lequel il travaillait alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'économie pour attirer son attention.
J'ai d'abord dévoilé mes réflexions sur un monde débarrassé de l'argent à Sarah, un après-midi de retour de chez le dentiste, certaine qu'elle en parlerait le soir même à mon père.
Dès le lendemain, et durant les semaines qui suivirent, Darius me convoqua dans la salle de bain et m'expliqua, tout en se rasant, les théories de Marx, d'Engels sur l'économie et l'histoire.
Les premières minutes, il faisait attention à son vocabulaire, mais très vite, son esprit s'échauffait, son débit s'accélérait, sa voix prenait de l'ampleur et les phrases s'enchaînaient, aussi complexes et abstraites que dans une langue étrangère.
Comme je ne l'écoutais pas vraiment, je l'observais avec envie manier le blaireau et le rasoir, essayant d'enregistrer la technique pour m'en servir quand je serai grande.
Vous voilà, sans préambule, face à la grande schizophrénie muette au creux de laquelle se déroula mon enfance.
En résumé, et avant d'autres développements ultérieurs, je savais que j'étais une fille, mais j'étais sûre qu'en grandissant, je deviendrais non pas une femme, mais un homme. Et c'est toute cette quête d'identité, de triple identité entre la France, l'Iran, et puis aussi une identité, une homosexualité en fait, qui va se faire jour, dont sa grand-mère iranienne a toujours été persuadée, et d'ailleurs qu'elle demande à sa fille, Sarah, que nous avons présentée, d'accepter avec amour, que... Négar nous présente. Et c'est très intéressant. Notamment par rapport à son intégration, elle parle, elle, de désintégration. C'est-à-dire que pour elle, pour s'intégrer dans un pays, il faut d'abord se désintégrer de sa culture. Et elle va trouver une autre voie, en fait, qui n'est ni l'Iran, ni la France, ni une identité qu'on lui assigne a priori en tant que femme. Elle va se découvrir dans la musique et se révéler et du coup pouvoir mener sa vie telle qu'elle l'entend.
Alors c'est un très très beau roman qu'on a vraiment beaucoup aimé, de même qu'on a beaucoup aimé son auteur Negar Javadi, qui est une femme charmante, et qui nous aidera aussi, en dehors de ces problèmes identitaires, qui vous aidera à mieux comprendre l'histoire compliquée de l'Iran, du XXe siècle surtout. Donc nous vous invitons à lire ce livre, « Des Orientales » de Negar Javadi, paru chez Liana Levy en 2016.
Alors, nous allons vous présenter avec Sylvie le dernier roman, donc l'auteur que nous avons reçu en même temps que Negar Javadi le samedi, des correspondances. C'est Petit pays de Gaël Faye. Alors, Gaël Faye a dû fuir son pays, le Burundi, en 1995, à cause de la guerre civile et surtout des retentissements du génocide rwandais qui se passait en fait dans un. Le Burundi est frontalier avec le Rwanda. Il est tout d'abord chanteur, compositeur, et son premier album, Pili Pili sur un croissant au beurre, est sorti en 2013. Dans cet album, une chanson porte le même titre que son roman. Et d'ailleurs, c'était en fait une productrice qui, en écoutant son texte, l'a invitée à écrire un roman parce que les textes de cet album sont très très beaux, très poétiques. Et cette productrice est venue le voir en lui disant « Je pense que tu as quelque chose de plus à dire que dans les chansons » et elle l'a conviée à écrire ce roman et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, donc, on va vous présenter ce magnifique roman « Petit pays » sur une enfance au Burundi.
Alors, moi, je rajouterais que Gaëlle Faye a déjà reçu pour ce livre le prix du roman de la FNAC 2016 et qu'il est même nominé pour le prix Goncourt. Donc, on lui souhaite bonne chance. Donc, nous avons... Alors, le thème de l'histoire, c'est Gabrielle, 10 ans, nous raconte sa vie d'enfant privilégié dans son quartier de Bujumbura, capitale du Burundi, avec son père, un entrepreneur français, sa mère, une réfugiée rwandaise, et sa petite sœur Anna. Un jour, tout va basculer. Donc là, nous avons choisi de vous lire deux dialogues savoureux qui donnent le ton de ce roman vu à travers les yeux d'un enfant de 10 ans.
Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué un jour dans la camionnette.
Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda. Il y a trois groupes différents. On appelle ça les ethnies. Les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits, avec de gros nez.
Comme Donatien, j'avais demandé.
Non, lui c'est un Zaïrois, c'est pas pareil. Comme Proté, par exemple, notre cuisinier. Il y a aussi les Toits, les Pygmées. Eux, passons, ils sont quelques-uns seulement, on va dire qu'ils ne comptent pas. Et puis il y a les Tutsis, comme votre maman. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Hutus. Ils sont grands et maigres, avec des nez fins, et on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Toi, Gabriel, avait-il dit en me pointant du doigt, tu es un vrai Tutsi, on ne sait jamais ce que tu penses.
Là, moi non plus, je ne savais pas ce que je pensais. De toute façon, que peut-on penser de tout ça? Alors j'ai demandé. La guerre entre les Tutsi et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire?
Non, ça, ce n'est pas ça. Ils sont dans le même pays.
Alors, ils n'ont pas la même langue?
Si, ils parlent la même langue.
Alors, ils n'ont pas le même dieu?
Si, ils ont le même dieu.
Alors, pourquoi font-ils la guerre?
Parce qu'ils n'ont pas le même nez.
La discussion s'était arrêtée là. C'était quand même étrange, cette affaire. Je crois que papa non plus n'y comprenait pas grand-chose. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à regarder le nez et la taille des gens dans la rue. Quand on faisait des courses dans le centre-ville avec ma petite sœur Anna, on essayait discrètement de deviner qui était Hutu ou Tutsi. On chuchotait.
Lui, avec le pantalon blanc, c'est un Hutu. Il est petit avec un gros nez.
Ouais, et lui là-bas, avec le chapeau. Il est immense et tout maigre, avec un nez tout fin. C'est un Tutsi.
Et lui là-bas, avec la chemise rayée, c'est un Hutu.
Mais non, regarde, il est grand et maigre.
Oui, mais il a un gros nez.
Et c'est là qu'on s'est mis à douter de cette histoire d'ethnie. Et puis, papa ne voulait pas qu'on en parle. Pour lui, les enfants ne devaient pas se mêler de politique. Mais on n'a pas pu faire autrement. Cette étrange atmosphère enflait de jour en jour. Même à l'école, les copains commençaient à se chamailler à tout bout de champ en se traitant de Hutu ou de Tutsi. Pendant la projection de Cyrano de Bergerac, on a même entendu un élève dire
« Regardez, c'est un Tutsi avec son nez !»
Le fond de l'air avait changé.
Peu importe le nez qu'on avait, on pouvait le sentir. Alors dans le second passage que nous allons vous lire, les vacances viennent de se terminer et les jumeaux, amis de Gabi, racontent ce qu'ils ont vécu. Les jumeaux sont passés à la maison pour me raconter leurs vacances de Noël chez leur grand-mère à la campagne.
C'était horrible, il n'y avait pas de salle de bain, alors on devait se laver tout nu dans la cour et devant tout le monde. Au nom de Dieu, Gabi!
Et comme ils n'ont pas l'habitude de voir des métisses comme nous, les enfants du village venaient nous espionner à travers la clôture. Ils criaient « Petit cul blanc !» C'était vexant. Grand-mère les chassait en leur jetant des cailloux.
Et c'est là qu'elle a remarqué qu'on n'était pas circoncis. Tu sais ce que c'est, circoncire?
J'ai fait le nom de la tête.
C'est couper le zizi.
Grand-mère a demandé à tonton Sosthène de nous circoncire.
Nous non plus. À ce moment-là, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors, au début, on n'a pas fait attention. Grand-mère parlait en kirundi avec tonton, on comprenait rien. Mais elle n'arrêtait pas de pointer son doigt vers nos braguettes. On voulait appeler les parents parce qu'on sentait que grand-mère et tonton préparaient quelque chose de vraiment louche. Mais je te dis, là-bas, c'est la vraie campagne. Pas de téléphone, pas d'électricité. Les toilettes, mon cher, c'est un trou dans la terre avec des mouches en stationnement longue durée autour. Oh mon Dieu !
Chaque fois que les jumeaux juraient, ils disaient « Oh nom de Dieu !» et glissaient en même temps un doigt sur leur cou, comme le couteau qui égorge le poulet, concluant le geste par un claquement de doigts dans l'air, pouce contre index, clac.
Tonton Sosten est arrivé avec les grands cousins Godefroy et Balthazar. Ils nous ont amenés à la sortie du village dans une petite maison en terre avec une table en bois au milieu de la pièce.
Tonton avait acheté une lame de rasoir à la boutique.
Godefroy m'a tenu les bras dans le dos et Balthazar a bloqué mes jambes.
Et Tonton a baissé ma culotte. Il a attrapé mon zizi, l'a posé sur la table, il a sorti la gilette de son papier, a tiré ma peau et zip, coupé le bout. Après, il a mis de l'eau salée dessus pour désinfecter. Oh nom de Dieu !
J'ai baboué quand j'ai vu ça, j'ai galopé directement dans les collines comme un impala poursuivi par des guépards. Mais les cousins m'ont rattrapé, bloqué, et zip, même chose.
Après, Tonton Sosten a mis nos petits bouts de zizi dans une boîte d'allumettes qu'il a donnée à grand-mère. Elle a ouvert la boîte pour vérifier le travail. Il y avait la satisfaction des Rolling Stones sur son visage. Oh nom de Dieu ! C'était maléfique même. Pour couronner le tout, elle a enterré nos bouts de zizi dans la parcelle, sous les bananiers.
Ils sont montés au paradis des bouts de zizi. Que Dieu ait leur âme.
Amen.
Et puis c'était pas fini. On a dû porter une robe, comme les filles, parce que les pantalons, ça frotte trop sur la blessure, tu comprends ?
La robe, c'était la honte internationale, mon cher.
Quand nos parents sont venus nous chercher à la fin des vacances et qu'ils nous ont trouvés dans cet accoutrement, ils étaient surpris. Notre père a demandé ce qu'on faisait en jupe.
On a tout balancé. Papa était énervé contre la vieille. Il a dit qu'on était français, pas juif.
Donc ce roman, vu à travers les yeux d'un enfant, en fait, nous raconte finalement l'histoire du passage de l'enfance, d'une enfance plutôt choyée parce que lui-même est métis, ses amis sont souvent métis ou enfants de diplomates, dans un quartier donc extrêmement privilégié. Et ce passage donc de cette enfance choyée à directement la guerre civile qui va atteindre sa propre famille et créer des drames.